c'est une musique qu'on entend dans le spectacle L'Entre-deux. C'est le spectacle de cirque L'Entre-deux qui est présenté à la TEHU, la cohorte de finissants de l'École nationale de cirque qui se lance sur la piste de la TEHU à partir du 29 mai et ce jusqu'au 8 juin avec le spectacle L'Entre-deux mis en scène par Nicolas Boivin-Gravel. 22 artistes qui seront sur la scène. Bonjour Nicolas.
Bonjour à vous.
Alors, L'Entre-deux, c'est le spectacle définissant de l'École nationale de cirque. Est-ce que ce sont des professionnels à ce stade-ci?
Écoutez, ça va, ils vont l'être dans 10 jours. c'est vraiment l'expérience transitoire entre la fin des études et le début de la vie professionnelle, mais il y en a plusieurs que dès le lendemain de notre dernier spectacle prennent les routes pour aller à leur premier contrat un peu partout à travers le monde. Donc, on peut dire que c'est des professionnels, puis ils ont été assez professionnels à travers toute la création. Ouais.
Alors, est-ce que L'Entre-deux propose toutes les disciplines du cirque?
Et on couvre un grand registre, je vous dirais. C'est sûr qu'on ne les couvre pas toutes, parce que là, dans les dernières années, il y a beaucoup de nouvelles disciplines, beaucoup de variations de disciplines, je vous dirais. Mais on a beaucoup de disciplines au sol, beaucoup de disciplines aériennes, des disciplines acrobatiques. On couvre un large éventail des disciplines de cirque.
Et comment c'est que de travailler avec des étudiants? Est-ce que c'est plus difficile ou plus facile? Est-ce que c'est plus inspirant? Qu'est-ce que ça vous apporte, Nicolas, qui avez? Vous êtes un ancien artiste de cirque, vous avez beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que ça vous donne?
Ouais, ben, je suis passé par les deux dans la vie. J'ai aussi travaillé beaucoup avec des professionnels. Ensuite, un coup que j'ai raccroché mes quilles d'acrobate, de jongleur. Ce qui est merveilleux dans ce processus-là, c'est qu'il y a une fougue de la jeunesse que je retrouve, que j'avais il y a 20 ans.
Ouais.
Ils ont faim, ils sont bons, ils sont en forme, ils sont tellement en forme. Puis il y a cette énergie-là, des fois, qui vient avec certaines choses, des manques d'expérience qu'il faut leur rappeler par rapport à être sur scène, à ne pas s'énerver, à laisser venir les choses au lieu de les provoquer, tout ça. Mais c'est très, je dirais, rafraîchissant de travailler avec eux parce qu'encore une fois, ils ont faim d'être sur scène, ils ont faim de créer, c'est des éponges encore. Ça a été vraiment bien. Puis, comme je vous dis, moi, j'essaie de recréer un peu les processus que j'aurais aimé avoir, même si j'ai eu des processus excellents quand j'étais artiste étudiant à l'École nationale moi-même. Mais non, ça a été super, comme je dis, c'est des superstars de demain, là, vraiment.
Alors, ils sont 22 sur la scène?
Oui.
Wow.
22 acrobates, ouais. Quand même.
Quand même, oui. Est-ce qu'il y a autant de gars que de filles?
Écoute, je pense qu'on est, je veux pas dire, je pense qu'on est à 9 filles et 13 gars. Donc, c'est à peu près égal, là, ce n'est pas exactement.
Ouais. Est-ce que d'une année à l'autre, il y a toujours plus de d'hommes que de femmes?
Je vous dirais, j'ai pas fait le décompte.
Non.
Exact. C'est à peu près toujours. Je pense que l'école essaie toujours d'avoir à peu près la parité. Ça dépend tout le temps. On dépend des gens qui font les auditions à l'École nationale. Hein. Donc, il y a des années où ça se peut qu'il y ait des gens dans une discipline beaucoup plus forte. Fait que, tu sais, ils essaient d'équilibrer tout ça, mais ils essaient aussi d'avoir des étudiants canadiens, québécois aussi. Puis des fois, ben, ça dépend des années de ceux qui appliquent. Ouais.
Et Nicolas Boivin-Gravel, L'Entre-deux s'écrit A-N-T-R-E, 2-D apostrophe E-U-X. J'imagine que c'est un jeu de mots avec entre et le chiffre 2. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Bien, on a fait un brainstorm il y a quelques mois avec toute l'équipe pour, tu sais, on a commencé à avoir une bonne idée de ce qu'allait être le spectacle qu'on voulait. On a aussi décidé de travailler en bifrontal, ça veut dire qu'on sépare la salle en deux à l'atelier. Fait que L'Entre-deux est sorti, mais L'Entre-deux avec un E puis avec le chiffre 2.
Mm-hmm.
Puis après, on était comme oui, mais c'est simple un peu, tout ça. Puis là, on s'est dit, il y a quelque chose où on commençait à penser, oh, la queue, c'est comme une grosse caverne pour nous, tu sais. On a dit, ah, une entre, OK, puis deux. Fait que ça, l'entre peut être externe, peut être interne aussi, tu sais. Comment on va au plus profond de nous-mêmes, des fois, pour avoir certaines émotions. Puis je trouve que ce spectacle-là, c'est eux qui sont sur scène, ils sont tellement forts. Fait que je voyais que c'était aussi L'Entre-deux, leur. On va, je ne vais pas dire qu'on a accès à leurs entrailles, mais à des choses profondes qu'on retrouve en eux. Ouais.
Justement, est-ce qu'il y a un fil rouge, une histoire dans ce spectacle?
Écoutez, oui, je dis oui et non. C'est pas un spectacle où il y a une histoire qui fait du sens de A à Z. Mais on a créé un univers, je dirais, qui nous permet justement de faire des petits accros à cette ligne rouge-là. Tout se tient, tout est ensemble. Quand le public va rentrer, dès l'entrée du public, on a des choses en action. Notre grosse caverne, notre antre vit déjà, puis elle vit jusqu'à la fin du spectacle. Après, c'est pas comme une pièce de théâtre écrite en acte, vous comprenez? Mais on essaie que tout ça se tienne et que cet univers-là inventé, qui comme c'était aussi l'entre-deux, on parlait de purgatoire au début, de lieux comme des aéroports, tu sais, des places où on est tout le temps entre-deux, des no man's land, où on est nulle part.
Dans mais le flou un peu.
C'est ça qu'on essaie de créer. Exact, volontairement. Ouais.
Ouais. Est-ce que ça crée, ben j'imagine que oui, ça génère de l'émotion, mais est-ce que le public va être plus ému, va ressentir un peu plus d'émotion que, ben le rire c'est une émotion, là, mais est-ce qu'on va être plus porté à pleurer ou à rire ou à un mélange des deux en regardant
ben,
l'entre-deux?
Écoute, je viens d'arriver à la TU, puis j'ai parlé au concepteur costume, Michael Slack, puis lui, il avait rien vu encore. Il a vu il y a deux jours, je crois, dimanche, on a fait notre premier filage, puis il me dit qu'il dit trois fois dans le spectacle, il avait les larmes aux yeux.
Ah oui.
À cause de la beauté, à cause qu'il soit avec des moments de grande beauté. Il va y avoir des moments où j'espère qu'on va rire, puis j'ai dit ça cette semaine, j'espère que c'est un spectacle où justement les images, certaines images vraiment fortes, que j'ose croire sont d'une grande beauté, vont rester dans les mémoires du public. Mais j'espère aussi que le public va voir l'humanité des créateurs derrière et toute l'humanité de ces 22 beaux étudiants-là qui ont beaucoup à offrir puis qui, quand même, qui donnent pas mal tout ce qu'ils ont sur scène. Donc, c'est ce que j'aimerais, ouais.
Et vous, qui êtes une figure importante du cirque contemporain québécois, là, pour ceux et celles qui ne vous replacent pas, on vous a vu un peu partout. Vous avez collaboré dans Les Sept Doigts de la Main, Cavalia, Cirque Éloise aussi. Vous avez aussi participé ou développé des projets pour le Cirque du Soleil. Est-ce que ça vous tente de... Quand vous regardez ces étudiants briller, là, est-ce que vous vous dites, oh, j'aimerais ça y retourner, j'aimerais ça faire ce qu'ils font ou... Vous êtes repu de votre métier d'artiste de scène, de jongleur.
Ouais, ben écoutez, moi j'ai pris ma retraite il y a à peu près 10 ans déjà, parce que justement je voulais m'arrêter avant d'être moins fier de mon travail un peu. J'ai été quand même très chanceux de transférer de l'autre côté de la scène et de pouvoir contribuer, puis continuer. Tu sais, les élèves, ils me demandaient cette semaine, ça te manque pas d'être dans les loges? Puis je suis comme, non, je suis dans les loges avec vous. Les applaudissements à la fin de notre spectacle qu'on va en avoir, ben, je les prends pour moi aussi. Vous comprenez, j'ai été chanceux de rester assez proche. Puis je trouve que c'est à eux maintenant d'être sur scène. Tu sais, moi, mon temps est passé. Moi, si je peux leur partager une partie de mon expérience, ma connaissance pour que eux brillent, pour que eux soient des meilleurs artistes, je pense. Je vis très, très bien avec le fait de ne plus être sur scène, je dirais. Puis d'aider des gens à exceller, à être sur scène, ça me branche vraiment, ouais.
Est-ce que c'est un peu comme un joueur ou une joueuse de tennis, là? À quel âge environ on commence à être peut-être moins performant en tant qu'artiste de cirque? Ça dépend, j'imagine, de la discipline. Comment ça fonctionne?
Bien, ça dépend vraiment de la discipline. Ça dépend beaucoup de l'historique de blessures aussi. Ça dépend des envies aussi. Tu sais, on vit dans un monde rempli de stress aussi. C'est une gestion de stress. On prend des risques tous les jours. Moi, je dirais, j'ai eu quelques problèmes physiques. Tu sais, entre autres, d'épaule, tout ça. Puis j'étais comme, je sais, je me suis souvent dit, je fais du ça depuis que je suis tout petit, il faut que je vive avec mon corps pour le reste de mes jours. Puis il y a souvent beaucoup d'acrobates qui poursuivent longtemps, mais que peut-être passé 40 ans subissent les contre-coups de tous les coups qu'ils ont mangés dans leur carrière. Un peu comme, je dirais, pour moi, j'identifie ça un peu comme les joueurs de hockey. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'âge. Il y a des artistes qui vieillissent très bien, qui changent beaucoup leur façon de faire leur pratique, qui font des trucs moins acrobatiques, moins d'impact, mais beaucoup plus touchants, beaucoup plus profonds. Fait qu'il y a des artistes encore jusqu'à 50 ans. Il y en a même, tu sais, les clowns, d'autres, des trucs qui font moins d'acrobatie jusqu'à 60. Mais je vous dirais que mi-trentaine, c'est souvent le champ du cygne pour beaucoup de monde. Ouais.
Mi-trentaine. Est-ce que la plupart des étudiants vont trouver du travail en finissant leurs études?
Je suis convaincu que la quasi-majorité va travailler dans les prochains mois, dans les prochaines années, oui.
Ah oui?
Je voudrais la totalité va travailler. L'École nationale, aux dernières nouvelles que j'ai, puis je connais un peu, ont un taux de placement qui est très, très, très élevé. C'est que ça reste une des écoles où les compagnies de cirque du monde entier courent pour venir chercher les étudiants. Ouais.
Une école qui a beaucoup d'expérience, là, qui existe depuis une quarantaine d'années. Est-ce qu'il va y avoir des recruteurs de compagnies de cirque qui vont être aux représentations de l'entre-deux?
Il va en avoir beaucoup, oui. Cette semaine-là, on a pas mal... toutes les compagnies québécoises, c'est certain. Beaucoup d'autres, d'ailleurs dans le monde, qui vont venir voir le spectacle, entre autres pour ça, pour faire leur magasinage.
Ah oui.
Pour les prochaines années.
Ouais. Est-ce que vous préparez les jeunes à vivre cette pression-là ou à faire fi de ces personnes-là qui ont quand même du pouvoir là, sur leur avenir?
Ben, moi, depuis le début, c'est pas le genre de truc que j'aime parler avec eux. T'sais, moi, je fais tout dans mon pouvoir pour qu'ils soient bien sur scène. Puis, comment dire, pour manger le maximum de pression à leur place. Je suis capable, j'ai l'expérience, j'en ai pris. C'est sûr que ça va être là, c'est sûr qu'on va en parler. Mais moi, je pense qu'en cirque, tant qu'on est dans le moment présent, puis dans le plaisir, tout ça est le fun. T'sais. Faut pas oublier qu'on fait un métier qui est merveilleux, puis qu'il faut pas penser à qu'est-ce qui se passe ici? Faisons notre travail sur scène, amusons-nous, soyons bons, soyons dans le moment présent, puis le reste va suivre son cours de manière naturelle, je pense.
Ouais. Wow! Oui, vous êtes un bon enseignant. Et puis, mais quand on est jeune, souvent, on dirait qu'on a une insouciance où ça nous donne plus d'énergie que ça nous en enlève, le fait de devoir performer. Il me semble qu'on n'a pas la même façon d'être quand on est jeune vis-à-vis la pression.
Totalement. Puis moi, j'essaie juste de leur dire, hey, ça fait 3 ans que vous travaillez pour ça.
Mais oui, vous êtes prêts.
C'est pour ça qu'on vit, être dans les loges, faire des spectacles, avoir un standing ovation, si ça va bien à la fin. C'est des choses qui sont tellement, tellement nourrissantes. Puis eux, ça fait 3 ans qu'ils n'en ont pas eu beaucoup de ça. Donc, tu sais, les 10 prochains jours devraient être très, très, très réénergisants.
Oui.
L'énergie est pas mal loin.
Est-ce que c'est vous qui avez choisi la musique qui accompagne le spectacle?
La majorité, mais ça a été un travail de groupe. Certaines pièces, c'est certains étudiants qui ont fait des propositions. Quelques-unes, notre concepteur sonore, concepteur musical. Et d'autres, Marie-Ève Kiliko, qui fait l'assistance à la mise en scène et chorégraphe. Que, entre autres, Genesis, c'est elle qui est arrivée avec ça parce qu'on cherchait pour le numéro de corde volante. Puis avec une fille qui est quand même une rock star dans le monde. Puis on a trouvé ça, puis on était comme, wow, le film est parfait.
Fait excellent trouvaille.
Oui, une coopération entre nous.
Et puis là, on entend Avant l'orage. On est dans un autre univers.
Oui.
Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Puis je vous souhaite des salles pleines. Je rappelle que les représentations de l'entre-deux se passent du 29 mai au 8 juin. Il y a des représentations aussi les dimanches après-midi, 1er et 8 juin, en après-midi, donc à 14 heures. Merci beaucoup, Nicolas Boivin-Gravel.
Merci de m'avoir accueilli.
Bonne journée.
Bonne journée.